de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour interroger notre créativité aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous rend créatifs et comment ça fonctionne dans notre cerveau? Qu'est-ce qui nous pousse à avoir de nouvelles idées originales et inattendues, à inventer autre chose dans tous les domaines et comment développer cette autre manière de penser dans nos sociétés de plus en plus formatées, à l'école, au travail ou chez soi? Cultiver la créativité serait-il en passe de devenir un acte de résistance? Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invitée, la psychologue Maude Besançon, autour de la question « Pourquoi sommes-nous créatifs et comment le devenir ?» Bienvenue. Besançon.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes psychologue, docteur en psychologie. Vous menez des recherches sur la créativité à l'université Paris Descartes. Avant de chercher avec vous ce qui nous rend ou pas créatifs, comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette question-là, donc en tant que psychologue de la créativité humaine?
Alors, au tout départ, c'était pas en tant que psychologue, suite à mon DES effectué en psychologie et sport, puisque j'ai un double cursus psychologie et sport, je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi les sportifs sont créatifs ou non, et notamment...
Pourquoi les sportifs sont créatifs? Donc pas les grands artistes, mais les sportifs. Ah ouais.
Au début, les sportifs.
Oui.
Et également en parallèle avec ce que j'ai effectué moi. Enfin voilà, j'ai fait du sport de haut niveau. Et je voyais des amis réussir à inventer des choses, à s'adapter à la situation. Et moi, j'étais dans mon carcan. Et je restais là à faire ce qu'on m'avait dit de faire, sans voir en fait qu'il y avait d'autres solutions possibles. Et donc vraiment, voilà, je me suis dit, et le sport, enfin voilà, dans tout ça, pourquoi par exemple... Je vais prendre l'exemple de Fosbury en saut en hauteur. Enfin voilà, au tout départ, les sportifs, quand on leur faisait faire du saut en hauteur, ils sautaient en ciseaux, donc les jambes en premier. Et puis Fosbury, du jour au lendemain, d'un seul coup, il a commencé à passer la tête la première en arrière. Et voilà. Et depuis ce jour-là, bah, tout le monde saute en Fosbury et absolument plus en ciseaux.
Donc qu'est-ce qui fait que Fosbury a eu cette créativité-là? Qu'est-ce qui fait que, allez, vous ou moi, on l'a pas eu, quoi?
Hein, c'est ça, exactement. Pourquoi nous, on est dans ce qu'on nous oblige à de faire et on pense pas à ces choses nouvelles?
Alors, autour de la question, pourquoi sommes-nous créatifs ou pas? Première piste de réflexion et de création sonore avec le mix créatif quotidien de Guillaume Ploquin.
On a tous une créativité au fond de nous-mêmes.
Je laisse fuir mon esprit.
Et je pense qu'on a tout à fait intérêt à réveiller cette créativité qui est en nous pour innover.
Je laisse fuir mon esprit sur ce morceau de page.
On voit des gens qui sont plus audacieux que d'autres.
The 1968 Olympic Games.
Les Jeux Olympiques de 1968 ont marqué un tournant dans l'histoire du saut en hauteur. L'Américain Dick Fosbury inventa une nouvelle technique de saut que certains trouvaient étrange.
Pourquoi tu es à l'école?
C'est ma maman qui veut toujours
que
j'aille à l'école.
Non, c'est pas bon.
Quand vous êtes face à un problème, il y a une autre façon de faire qui est de regarder autrement le même problème sur lequel nous sommes.
Pour un truc plus frais.
Et pourquoi tu viens à l'école? C'est que pour jouer?
Eric Satie détestait les étiquettes. Un jour, on lui a dit que sa musique n'avait pas de forme. Il a dit, comment ça, ma musique n'a pas de forme? Parce que, bah, il faut toujours une forme, une mélodie, un couplet, enfin. Bah, il a écrit des morceaux en forme de poire.
Les idées sont partout.
Bon, alors là, tu fais la démo produit, là. Exquis fromage blanc sans matière grasse avec du calcium, des vitamines, des protéines pour être bien dans sa tête et dans son corps. Il y a rien de meilleur.
Voilà.
On va adorer, hein, sans déconner.
Elle reprend.
Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant.
Puisque je vous ai tout dit.
Et on peut les admirer sur leur volonté de mettre en œuvre une créativité collective.
Mais là, je suis vraiment à sec d'idées. Et vu qu'il n'y a pas d'inspiration, je crois que ce morceau va rester à l'état de brouillon.
Maude Besançon, je vous ai vu sourire. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Eh bien, effectivement, il y a des choses intéressantes quand j'entends les petits-enfants dire bah, « Pourquoi est-ce que tu vas à l'école ?»« Bah, parce que maman, elle me dit d'y aller. » Oui, c'est vrai que... Là, on est vraiment dans la norme. Enfin, voilà, on nous dit de faire quelque chose et je le fais sans réfléchir vraiment à d'autres solutions possibles, envisageables.
Parce que c'est ça, la créativité, pour tenter de la définir hein, autour de la question « Pourquoi sommes-nous créatifs ?» Ce serait quoi? D'essayer de faire autrement d'innover, d'avoir une idée originale qui marche
Alors, l'idée, effectivement, de la créativité, comme on l'a définie en psychologie, c'est vraiment de faire quelque chose de nouveau, de proposer une production, alors ça peut être dans différents champs, qui soit nouvelle, mais en même temps adaptée. C'est-à-dire que ça doit correspondre quand même à quelque chose qu'on peut faire et qui fera qu'on va à peu près dans la norme, mais en déviant un petit peu. On va dire.
En déviant un petit peu. Ouais. C'est-à-dire que là, en psychologie, vous parlez de la créativité, pas seulement de la créativité des génies, des artistes, des grands peintres. Vous nous décomplexez, on peut tous être... Ça nous concerne tous, la créativité.
On est bien d'accord. Non, après, il y a des courants qui étudient uniquement les génies. On est d'accord, c'est bien de les étudier, puisqu'à un moment donné, il semble que ce soit eux qui aient le grand processus créatif. Mais pas du tout. Chacun, en fait... Mais tout un chacun peut être créatif à son niveau, et c'est ce qu'on définit en fait entre la créativité avec un C majuscule et la créativité avec un C minuscule. Donc la créativité avec un C minuscule, c'est vraiment la créativité de tous les jours, où chaque jour vous êtes confronté à des nouveaux problèmes, et vous ne pouvez pas savoir exactement à l'avance ce que vous allez faire. Et donc vous vous adaptez, vous êtes créatif.
Tous les jours, en fait, dans nos vies, on est un petit peu créatif, c'est ça.
Oui.
Et on pourrait peut-être l'être encore plus, d'ailleurs.
C'est ça. Par exemple, ce soir, vous rentrez, vous n'avez pas de quoi faire à manger, vous regardez dans votre frigo, et avec les restes vous allez inventer une recette à la dernière minute, vous allez être créatif, parce qu'à un moment donné, vous ne l'avez jamais faite.
En fait, c'est ça, c'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait autrement. Alors, depuis quand est-ce que les psychologues comme vous, puisque on y vient quand même, s'intéressent à la créativité, au fait de savoir comment ça marche et que ça concerne tous les domaines de nos vies?
Alors, il faut savoir que dès le début, en fait, des années 1900, Binet s'y intéressait. En parlant de l'intelligence, en fait, pour lui, la créativité est à prendre en considération. Et puis, dans son test, ça a été mis de côté. Et en France, on n'en a pas entendu parler jusque la fin des années 1980-90.
C'est-à-dire qu'en gros, entre 1900 et 1980-90, l'intelligence était autre chose que la créativité. Oui. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que c'est extrêmement important, que c'est même peut-être ça qui nous fait humains et hommes et avancer.
Alors, on est d'accord. Pour la France, c'est ça. Aux États-Unis, Guilford est apparu dans les années 50 quand même. Et lui a commencé à parler effectivement de créativité et notamment donc de pensée divergente et de pensée convergente.
Alors, pensée divergente, pensée convergente, vous avez dit aller un peu à côté, divergente, c'est ça? C'est diverger un petit peu du...
Alors, non, dans la pensée divergente, il entend la capacité à produire de nombreuses idées à partir d'un seul stimulus. Donc, en fait, c'est plutôt une pensée exploratoire. On part d'une idée principale et on va dans toutes les directions possibles, enfin le plus de directions possibles, différentes les unes des autres.
Ça, c'est une des mesures de la créativité, c'est-à-dire d'essayer d'avoir le plus de quoi, de pistes possibles, d'ouvertures possibles, de solutions possibles à un problème.
Alors voilà, c'est plutôt le piste de, enfin c'est pas juste des pistes, c'est vraiment le plus de solutions possibles. Et c'est une mesure de la créativité, et beaucoup de chercheurs jusqu'à présent, même encore maintenant, considéraient que c'était la seule et l'unique mesure de créativité, que c'était suffisant de savoir que si plus on était capable en fait de produire d'idées à partir d'un stimulus, et plus on était créatif. Donc ça, c'était vraiment la première mesure, notamment les tests de Torrens, qui sont apparus en France dans les années 1970, en 76 exactement. Et par exemple, dans ces tests-là, on vous demandait quelles sont les différentes utilisations que vous pourriez avoir d'une boîte en carton. Et donc, la personne, elle avait 10 minutes pour trouver le plus d'utilisations possibles, différentes les unes des autres, les plus originales possibles, à partir d'une ou de plusieurs boîtes en carton.
Et ça peut aller de combien de solutions boîtes en carton qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut aller en nombre? Il y a des gens qui en trouvent...
Alors, en 10 minutes.
En 10 minutes.
Il faut savoir que moi, je l'ai fait beaucoup passer à des enfants. Il y en a qui vont m'en donner 2-3 idées, les moins originaux, enfin les moins créatifs. Et à côté de ça, je suis allée en 10 minutes jusqu'à plus de 30.
Plus de 30 possibilités avec une boîte en carton.
Sans problème.
Et alors, vous avez dit qu'aujourd'hui, les psychologues ont d'autres mesures. Il n'y a pas que cette pensée divergente, donc capacité d'imaginer des solutions à partir d'un stimulus, comme vous dites, d'une idée. Il y a d'autres manières aussi de mesurer la créativité.
Oui, alors on considère que l'autre partie importante de la créativité dans le processus cognitif, c'est d'évaluer ce qu'on appelle la pensée convergente ou intégrative, c'est-à-dire la capacité à intégrer, à mettre ensemble en fait, différents éléments, à les structurer les uns avec les autres pour en faire un tout cohérent. Donc, ça peut être, par exemple, raconter une histoire à partir d'un titre ou à partir de différents personnages, effectuer un dessin à partir de plusieurs éléments qu'on leur propose et donc ils vont les agencer. Et c'est cet agencement qu'on va évaluer, est-ce qu'il est créatif, est-ce qu'il sort de l'ordinaire ou pas. C'est-à-dire au fond que la créativité, pour la mesurer, il faut à la fois tout ouvrir, avoir le plus de pistes et solutions possibles et être capable aussi de tout rassembler en un seul élément. C'est un peu ça.
Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut partir dans différentes directions pour essayer de trouver l'idée la plus originale, la plus créative possible. Mais après, à un moment donné, il faut la sélectionner pour ensuite la développer. Si on la développe pas, si elle reste juste, ça reste juste un embryon. Et donc,
c'est de l'imagination, c'est voilà, du rêve et exactement. Ça ne vient pas dans la réalité. Donc, il faut inventer et que ça puisse aller ensuite dans la réalité.
Exactement.
Trop fort.
RFI.
Zap Mama sur RFI, toujours aussi créative, avec Recreation autour de la question « Pourquoi sommes-nous créatifs ?» Nous sommes avec la psychologue Maude Besançon. La créativité, on pourrait dire qu'elle est à la mode aujourd'hui. C'est presque un mot d'ordre, une injonction obligatoire, ce qui va pas très bien ensemble d'ailleurs dans nos sociétés. Soyez créatifs. Est-ce qu'on peut l'être sur commande, créatif, parce qu'il faut, parce que c'est bien, parce que c'est la crise, parce que...
Alors, si seulement on pouvait l'être sur commande.
Et voilà.
Mais non. Ce qu'on recommande, ça ne fonctionne pas. C'est une capacité qui se développe, qui s'apprend, enfin comme toute capacité.
Qu'on aurait alors en tant que psychologue, qu'on aurait un peu plus au départ, que certains auraient.
Oui, il y aurait un ensemble de facteurs en fait qui permettraient d'être plus ou moins créatifs, donc des facteurs cognitif, donc plutôt tout ce qui est lié à la connaissance, justement, à cette capacité de penser divergente, de penser convergente, dont on a parlé tout à l'heure.
Donc de trouver plein de solutions quand on vous pose une question, et en même temps être capable de rassembler
voilà.
tout ça en une seule.
Voilà, et en même temps, des facteurs plutôt conatifs, liés à la personnalité, au style de pensée, de personnalité, même à ce qu'on appelle les émotions. Enfin, c'est important, l'affect, la motivation.
Et les émotions, quoi, à votre avis, ça rendrait plus créatif, moins créatif? C'est quoi, ça joue comment?
Alors, les émotions, c'est un domaine que je connais un peu moins. Les émotions positives sont importantes, hein. Effectivement. Souvent, en fait, il y a quand même beaucoup de recherches qui mettent en évidence que quand on est gai, heureux, on va avoir plus tendance à produire quelque chose d'original, mais en même temps... plein de solutions, ça marche bien. À l'inverse, quand on est trop triste, enfin voilà, on sait effectivement...
On ferme un peu, quoi.
On ferme un peu, et en même temps, parfois, c'est quand on n'est vraiment pas bien qu'on va avoir l'idée de génie.
Et oui, parce qu'il faut bien sortir de là où on est.
Voilà.
Alors ici même, autour de la question, on essaye à notre petite mesure de l'être un peu créatif à RFI. Il y a même une unité de création où se distingue Monica Fantini, qui anime également des ateliers autour du son avec des enfants. Écoutez sa question, Maude Besançon, elle est pour vous.
Pourquoi les enfants sont toujours très créatifs ?
Votre réponse, Maude Besançon.
Alors, les enfants, au départ, effectivement, sont très créatifs, ils sont chaque jour en train d'inventer leur vie, ils découvrent leur environnement, et ils n'ont pas appris toutes les normes que nous, on connaît. Donc, ils osent les choses.
Parce qu'en fait, c'est les normes qui empêchent quand même un peu d'être créatif.
Un petit peu. Je vous ai pas parlé de l'autre facteur qui était donc le facteur environnemental, mais effectivement, on est dans des normes, enfin, on est dans une culture, il faut suivre, en fait, ce qu'on nous dit de faire, et forcément, on suit un petit peu, et on est dans des rails. On est dans une boîte. Et on en sort peu, on va dire. Papa, mais on en sort peu. Alors que les enfants, ils en sont pas là. Ils sont capables, eux, comme ils sont pas encore rentrés dans la boîte, au tout départ, ils inventent plein de choses. Le souci, c'est que plus ils grandissent, et plus ils rentrent dans la boîte,
plus ils rentrent sur les rails et hop, ils suivent le chemin.
Et plus ça se ferme. Alors que quand même, quand on lit notamment l'article que vous avez publié dans Cerveau et Psycho, on se rend compte quand même que c'est quelque chose de très très humain, la créativité, et que c'est ça qui nous fait avancer, qui nous a toujours fait avancer. Finalement, il faudrait moins rentrer dans la petite boîte quand même.
C'est ça. C'est ce qu'il faudrait, et ça s'apprend. Mais dès l'école, par exemple, quand vous demandez à des professeurs est-ce que vous pouvez effectuer des choses plus en ouvrant les choses, en ouvrant des idées, et non pas en fermant et en imposant une seule idée, les enseignants, ils ont des difficultés. Puisque quand vous prenez un exercice de maths, par exemple, on vous a toujours demandé combien font 7 plus 7. Et à cette question, une seule réponse possible, cherchez pas, ce sera 14.
Ouais, heureusement, je la connais.
Et si jamais vous répondez à côté, et ben vous avez faux.
Alors comment il faudrait faire ?
Eh ben à l'inverse, faudrait demander ben qu'est-ce qui fait 14 ?
Ah, là il y a plusieurs solutions.
Ah ben il y en a pas qu'une normalement. Eh ben oui, il y a 7 plus 7, ça c'est une des possibilités. Mais à un moment donné, l'enfant il peut dire ben 10 plus 4. Ou 11 plus 3, enfin voilà.
C'est ça, ce serait ça de développer la créativité, c'est-à-dire d'envisager par soi-même de trouver des solutions, ou de pas chercher la solution tout de suite.
En fait, pas chercher la solution unique. On a l'impression, en fait, dans notre système, qu'il y a une seule et unique solution possible à chaque problème qu'on pose. Or, à un moment donné, il y a une multitude de solutions. Sauf qu'il faut se permettre, en fait, d'avoir cette multitude de solutions. Et il faut que les problèmes, en fait, qu'on nous pose soient ouverts. Et non pas fermés sur cette solution unique qui, généralement, est imposée à l'école.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on ferme plus ou qu'on ouvre plus aujourd'hui? Parce qu'on l'a dit, on est dans des sociétés où la créativité a quand même le vent en poupe. On nous dit, soyez créatifs. Alors quoi? Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ferme plus, Maud Besançon?
Alors, à l'heure actuelle, je dirais que dans les entreprises, on essaie d'ouvrir. On essaie d'ouvrir avec tout ce qui est les techniques de brainstorming. Il y a beaucoup de stages également sur la créativité, développer votre créativité, la créativité collective. Donc,
pour trouver des nouvelles idées, voilà, dans les entreprises, face à la crise, face aux mutations et aux bouleversements, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Mais c'est dans les entreprises. Et le souci, c'est que ça fait combien d'années que ces personnes-là sont déjà dans la petite boîte et sur les rails?
Elles ont oublié d'être créatives.
Elles ont totalement oublié.
Et oui.
Et donc, c'est beaucoup plus difficile de revenir à quelque chose qu'on a bien mis de côté pendant des années, alors que si on le faisait depuis la plus tendre enfance et depuis l'école, ça permettrait vraiment d'ouvrir, en fait, beaucoup plus les choses et d'avoir effectivement des personnes qui, une fois arrivées dans l'entreprise, seraient un peu plus créatives et plus facilement.
C'est-à-dire aussi que tout le monde, au départ, en tant qu'être humain, on a un cerveau, on a un cortex, là, un grand front devant, on est tous équipés pour être créatifs. Il suffit, plus ou moins, d'accord, comme un peu pour tout, mais il suffirait de le développer.
Oui, tout à fait. Il suffirait de le développer, mais à un moment donné, regardez les enfants qui, au tout début, ne savent pas marcher, et comment ils vont réussir à attraper un objet qui est trop loin placé. Ils vont réussir à prendre un petit râteau qui va faire qu'ils vont avoir le bras plus long, et hop, ils vont pouvoir attraper l'objet plus loin. Enfin,
ça, c'est de la créativité, avec un petit C, même avec un grand C, finalement.
Ben, avec un petit C, parce que c'est à son niveau à lui. C'est à son niveau à lui, il y en a d'autres avant lui qui l'ont fait. Donc, on peut pas dire que c'est la créativité avec un grand C. Dans la créativité avec un grand C, ça va être beaucoup plus, en psychologie, on va dire que ça va être Freud, enfin voilà, qui a inventé quand même la psychanalyse, on peut pas lui enlever
voilà,
ça.
Voilà, un vrai novateur, quelqu'un qui d'un coup arrive et qui pense autrement et qui amène autre chose,
voilà,
de nouveau.
Exactement.
Et d'adapter.
De nouveau, d'adapter et planétaire. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait un impact en fait, pas uniquement, même si vous inventez quelque chose, une nouvelle émission à votre niveau.
Ce sera pas de la créativité qu'un grand C.
Moins que quelqu'un, après, enfin voilà, ça parte après de partout dans le monde entier, eh bien oui, ça deviendra un grand C, mais sinon ça sera quand même une créativité avec un petit C.
Mais en même temps, alors, on ne sait pas si pour faire de la créativité avec un grand C, il faut l'avoir développé dès la petite enfance, mais on se dit quand même que si, que les grands génies, ils ont dû ouvrir et jamais vouloir rentrer dans la petite boîte.
On est d'accord. Dans ce cas-là, je peux prendre l'exemple d'Einstein, qui n'était pas du tout adapté à l'école, mais alors pas du tout. Et globalement, les enseignants disaient « ça ne sera pas possible, on ne peut rien faire de lui ». Et en fait, voilà ce qu'il dit en bien, c'est que maintenant, on en parle quand même comme...
Ben oui, il a bien fait, Einstein. Allez, on continue à chercher d'autres sources d'inspiration individuelle et collective en dehors de l'école autour de la question pourquoi sommes-nous créatifs et comment l'être plus encore. On se retrouve dans 3 minutes juste après le flash d'info. À tout de suite.